Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de Pluriel Gay. Alors, ce soir, nous avons des invités de prestige. Je reviendrai à eux dans 5 secondes. Mais d'abord, je voudrais te signaler que notre ami Bernardo est parmi nous ce soir.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et puis bienvenue à nos invités.
Oui, nos invités donc, que nous connaissons déjà un petit peu, puisque l'association Frise, puisqu'il s'agit d'elle, sont venues déjà, l'association Frise est déjà venue à l'émission plusieurs fois. Alors la dernière fois, il y avait Daniel, n'est pas là ce soir, elle avait des engagements.
On l'a vendu.
Vous l'avez vendu?
Oui, pas assez cher à mon goût, mais on l'a vendu. Ah, il y a des restrictions budgétaires.
Hein. Ben oui. Alors du coup, Daniel ayant été vendu, nous nous retrouvons donc avec Jean-Vitaine.
Elle avait des choses importantes à faire autour de la LGP et des personnes handicapées ce soir.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle m'a expliqué. Quelque chose apparemment d'intéressant, parce qu'un projet pour ouvrir plus encore la marche aux personnes handicapées.
Tout à fait.
Mais aussi le centre. Je crois que ça a un rapport aussi avec le centre LGBT. Voilà.
Exactement.
Donc, nous venons d'entendre Jariten. Merci d'être à nouveau parmi nous.
Bonsoir.
Bonsoir, Jariten. Bonsoir, Alexia.
Bonsoir.
Bonsoir, Jean-Yves.
Bonsoir.
Voilà. Alors, ce qu'on va faire, je voudrais bien qu'Alexia et Jean-Yves se représentent. Jariten, finalement, on te connaît bien.
Hein? D'accord.
Okay. On avait rappelé la dernière fois, non, mais la dernière fois, on avait rappelé que tu étais déjà venu, tu connaissais bien le chemin pour venir jusqu'ici. Puisque tu as participé à l'émission qui, avant celle-ci, à l'ancêtre de Pluriel Gay, en fait, s'appelait Les Guettons, c'est ça?
Les Guettons.
Et tu étais intervenant dans cette émission.
Ouais. Ça date pas d'hier, ça me rajeunit vachement, je devais avoir près de 17 ans.
Ouais.
Donc,
bon.
Aujourd'hui, j'en ai 18, tu vois.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas si vieux que ça, finalement.
C'est ça.
Donc, Alexia, tu fais partie de l'association Frise également.
Oui, je suis salariée chez Frise.
Salariée.
Voilà. Et du coup, je travaille un peu sur les actions de terrain, sur les projets et sur le site internet Flash Info.
Voilà.
Fouf, on en parlera
alors,
après, je pense.
Flash, voilà. Flash Info Fouf, c'est dur à dire, Flash Info Fouf,
oui.
C'est un sacré exercice de diction.
Voilà.
On en avait parlé effectivement, un petit peu, mais on n'avait pas eu le temps d'aborder le sujet avec l'association Frise, la dernière fois qu'elle était venue, parce que finalement l'émission avait été très dense et on s'était dit qu'il fallait que vous reveniez, hein, du coup, parce que vous avez beaucoup de choses à dire et beaucoup de projets aussi, donc il fallait venir en parler. Alors, et j'ai aussi avec nous, nous avons Jean-Yves, et non pas Julien, Jean-Yves qui est là. Moi, je l'appelle Julien. Alors. Jean-Yves.
Ouais, d'accord.
Alors Jean-Yves, toi, je sais que tu es un garçon déjà très investi
oui.
au centre LGBT
oui, tout à fait.
De Lyon.
Oui.
Parce que c'est là-bas que je t'ai vu déjà,
oui,
au centre LGBTI. Mais j'ignore assez que tu fais partie de l'association Frise.
On va dire que je fais partie de beaucoup d'associations, dont effectivement le forum Frise, SOS Homophobie, le Jardin d'été, bon, j'en passe. Hein. Puisque moi je m'inscris vraiment dans une démarche, je dirais, de coopération entre les associations, d'essayer de non seulement de rassembler, mais de permettre à chaque association d'avoir conscience de l'existence de ses voisines, et d'essayer un petit peu de rassembler des forces.
D'accord. Alors, justement, il y a une question que je me suis posée à un moment donné, comme ça, la question a surgi d'un seul coup, en pensant au centre LGBTI, justement, l'association Frise est inscrite au centre LGBTI. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi? Pourquoi cette démarche d'être adhérent au centre?
Parce que c'est, enfin, dans une idée de convergence des luttes, ça nous semble essentiel de pouvoir toucher la plupart des publics LGBTI, les publics féminins, les publics trans, les publics des travailleurs et travailleuses du sexe, les publics de réfugiés LGBT ou pas d'ailleurs. Le centre LGBTI, ça nous permet de toucher un public assez large parmi nos cibles. Je pense que c'est essentiel qu'on soit... C'est même évident qu'on soit au centre.
D'accord. Vous êtes dans l'optique, en fait, du centre. Vous vous sentez complètement inclus, je veux dire, dans l'esprit général du centre LGBTI.
Tout à fait, d'autant plus
légitime.
Peut-être...
Non, c'est autre chose, donc je laisse.
D'autant plus peut-être aujourd'hui où il y a une démarche un peu plus...
Militante.
Militante et de sensibilisation... du public par le biais d'expositions qui sont très bien accueillies au centre. Donc on fait régulièrement des expos, on en fait une encore, un vernissage le 8 février là, sur une expo avec l'école US Mode autour des soignants, soignantes invisibles des années SIDA.
Mmh, on y reviendra.
Voilà, mmh. Mais ces expos, elles...
Elles ont leur place dans le centre et c'est bien aussi de, d'avoir un point, d'apporter du militantisme au sein du centre LGBTI. D'accord. Qui est un lieu aussi où on découvre des choses et on peut s'engager dans, avec des convictions. Mmh. Et Frise, c'est sexualité aussi, sexualité au singulier, bien sûr. Et ben, les pratiques, quelles qu'elles soient, ça fait partie de nos missions. Qu'on ne soit pas discriminé par rapport aux pratiques qu'on a à un moment de sa vie ou tout au long de sa vie.
Alors, je posais la question à Daniel, donc, qui était là la dernière fois. Je lui disais, je présentais l'association en disant que c'est une association féministe. Et je lui ai demandé de me confirmer. Elle a dit à 100%.
Oui. Voilà. Mais féministe, c'est pas juste c'est les bonnes femmes qui veulent plus de droits. Hein. Mmh. C'est nous, on est là pour lutter. Enfin, on prend en compte les rapports sociaux, qu'ils soient liés au sexe, à la classe sociale, que ce soit l'origine, la race. Alors, le mot race fait un peu peur, mais voilà. C'est prendre en compte tous ces facteurs qui font qu'il y ait des inégalités, des discriminations envers les personnes. Ça, c'est le féminisme comme nous, on l'entend.
Qu'on opposait, justement, la dernière fois, on en parle. On en revient toujours à Elisabeth Badinter, qui était une autre forme de féminisme, on dira.
Bah déjà, Elisabeth Badinter, si elle est féministe, elle est aussi tout un tas d'autres choses à côté. Elle est philosophe. Elle est,
Mais souvent on oppose ce féminisme-là dont parle Alexia avec un féminisme un peu bourgeois, un peu dame patronesse, un petit peu.
Alors peut-être que dans le féminisme, on retrouve la lutte des classes qu'on retrouve d'ailleurs un peu de partout, comme dans nos combats, comme dans nos luttes LGBT, I et les autres. c'est la lutte des classes, elle se retrouve de partout. Donc le féminisme aussi.
Y a un féminisme blanc qui est assez visible et qui lutte, qui a des très bonnes luttes, hein, qui lutte contre le plafond de verre ou contre le sexisme dans le milieu politique ou des choses comme ça. Mais ça n'empêche que les rapports sociaux de classe ou de race ressortent et... On va pas se mentir, pour que certaines femmes blanches puissent accéder à des postes et se libérer des tâches domestiques, elles emploient des femmes noires. Et finalement, c'est une reproduction de rapports de domination.
Et elles ont aussi les moyens aussi d'employer des personnes, du personnel, etc.
Il y a une reproduction, c'est un transfert en fait. On a réussi à s'émanciper de certaines choses. Et du coup, on a de l'argent et on a un peu plus de pouvoir et on est plus émancipé, on a plus... Et du coup, on reproduit finalement la même chose sur d'autres personnes. Et ça, ça nous semble important à Frise de lutter contre ça et de l'avoir au moins en tête.
Alors l'association Frise a donc, tu le disais Alexia, aussi une partie consacrée au sexe.
Oui,
alors,
c'est
sexualité
génial.
Au sein de donc, réduction des risques. Donc cette partie-là, alors de santé sexuelle aussi.
Oui.
Hein, réduction des risques, santé sexuelle, sexualité. Qu'est-ce qui intéresse le plus l'association Frise, justement, toutes les sexualités ou une sexualité qui serait vue sous un angle féministe?
Donc déjà, nous, on parle pas parle de sexualité humaine
oui,
au singulier,
ça, je sais.
Parce
voilà.
qu'on trouve réducteur de classer les gens dans les cases. Et alors, sexualité féministe, je saurais pas.
Justement, parce qu'il y a le mot féministe et sexualité, les gens cherchent à associer aussi les mots.
C'est que tout le monde puisse accéder à la sexualité comme il l'aimerait, en tout cas. Donc les notions de plaisir sont très importantes. C'est pour ça qu'on se retrouve beaucoup avec le CRS, qui est le Centre Ressources Sexualité et Handicap, qui est aussi là pour informer sur la sexualité des personnes en situation de handicap, leur donner de l'information adaptée, enfin toutes ces choses-là. Et j'ai perdu où j'en étais. Mais bon, c'est que voilà. Et après vient tout le côté, on va dire un peu plus prévention. Et là, on parlera aussi de santé, dans le sens lutte contre les IST, bien sûr, lutte contre les viols, voilà. Donc, je sais pas si j'ai répondu trop à ta question, mais sexualité féministe, moi, ça me parle pas spécialement. Je sais pas.
Est-ce que par exemple la lutte, la défense du droit à l'avortement?
Ah oui, bah oui.
C'est une thématique
oui, bien sûr.
Bien sûr. Féministe.
Oui, tout à fait.
Si je peux donner une version, je pense que il y a une part dans Frise de sexualité féministe au sens où Quand on fait une formation, par exemple, on s'intéresse beaucoup à comment sont faits les organes, mais pas que féminin, mais féminin, ou comment ça fonctionne, les idées reçues qu'il y a autour des règles, du lavage du vagin, tout ça. Et mieux comprendre les femmes, c'est aussi mieux les accepter, mieux les comprendre dans leur vécu du sexe et de la sexualité. C'est aussi pouvoir les recevoir pleinement en tant qu'être humain et les mettre au même niveau que les hommes, finalement.
La sexualité féministe, on intervient en lycée. Quand on intervient en lycée sur plusieurs séances, on aborde notamment, entre autres, les moyens de contraception. Et à la fin de ces interventions, les jeunes sont invités à faire des messages. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui les a le plus marqué, les plus touchés, faire un message pour diffuser cette idée. Et j'ai un groupe de 3 jeunes garçons qui m'ont fait une affiche sur... J'ai plus l'intitulé exact, mais quand est-ce qu'il y aura plus de moyens de contraception pour les hommes? Quand est-ce que nous aurons du choix pour pouvoir gérer, nous aussi, le désir d'avoir un enfant?
Ce qui est une demande assez rare de la part d'hommes, en général.
Mais en fait, ils ont fait le constat, ils ont vu, mais alors les femmes, elles ont ça, ouais. Et nous, en fait, on a la capote ou la vasectomie.
Ouais.
Ou la technique du retrait, voilà. C'était leur constat. Et du
alors,
coup,
il existe aussi, je crois, une pilule contraceptive pour hommes. Mais qui
est
n'a
en
jamais...
test.
Hein,
ouais, oui, il y a des tests.
Qui, au niveau commercialisation, semblerait ne pas intéresser beaucoup les laboratoires, parce qu'elle n'aurait pas... beaucoup d'acquéreurs.
Il y a un article qui est sorti sur les tests qui disait qu'en fait, ça a fait bondir quelques personnes. Donc l'article est sorti en disant que sur les tests auprès du public masculin, les effets secondaires, c'était de l'acné, de la prise de poids, de la perte de libido. Et bien sûr, certaines femmes sont montées au créneau en disant « Mais nous, ça fait des années qu'on a ça et personne n'a pris ça en compte. » Voilà, bon, c'est des petites...
Alors, pour continuer sur ce thème-là, est-ce que vous envisagez dans les thèmes abordés aussi la sexualité des femmes qui aiment les femmes, et notamment la réduction des risques, parce qu'on en parle très peu, mais je sais que le... Qui veut s'exprimer là-dessus? Jean-Yves, on te fera parler après, un premier
intervenant. Non, il n'y a pas de souci.
Mais du coup, oui, on peut parler de Flash Info Fouf. Jean-Yves va s'investir aussi sur Flash Info Fouf. Donc, voilà, mais je peux décrire. Donc, Flash Info Fouf, c'est un site internet qui n'est pas sorti comme ça de n'importe où. C'est un travail de plusieurs années en amont par Frise, d'autres associations, des stagiaires qui se sont investis dans l'association, des bénévoles. Bon, donc le site a été lancé en mars. Moi, à la base, je suis arrivée à Frise pour faire l'évaluation de ce site internet, une évaluation très positive. Il y avait quand même des petits bémols, notamment une inclusivité qui passait par exemple par la traduction d'une partie du site en anglais. Nous accueillons, nous côtoyons des jeunes femmes lesbiennes immigrées qui ne maîtrisent pas forcément très bien le français, mais qui maîtrisent mieux l'anglais. Du coup, si des personnes comme Jean-Yves peuvent traduire au moins une petite partie, ça fait partie aussi de l'inclusion et c'est intéressant. Donc le site, il aborde, Flash Info Fouf, il aborde, c'est un site ressources. Donc il y a toutes les ressources sur Lyon pour les femmes, soit des associations, soit des structures qui leur permettent d'avoir accès à plein de choses, que ce soit de l'autodéfense féministe, que ce soit où est-ce qu'on peut faire un IVG ou avoir un moyen de contraception, que ce soit des assos plus conviviales, que ce soit des événements. Donc on essaye d'avoir le plus de ressources possible. Beaucoup de brochures aussi qu'on a mis en ligne sur plein de thématiques, les cancers, les infections sexuellement transmissibles, comment bien nettoyer son sextoys, enfin plein de choses. Il y a aussi une partie sur les produits psychoactifs et aussi leurs effets qu'ils peuvent avoir sur la sexualité. Parce qu'à Frise, on fait beaucoup de liens entre consommation de produits et sexualité. Voilà.
D'accord. Donc, dans toutes ces thématiques, là, la sexualité des lesbiennes, des femmes qui aiment les femmes, on dira pour être plus précis, est repris aussi par l'association Frise. Parce que je sais qu'il y a un petit recueil qui avait été publié il y a quelques années de cela, peu de temps, sur la sexualité justement spécifiquement des femmes avec les femmes, surtout sur la réduction des risques.
Je sais plus le nom de ce recueil, c'était
tomber quelque chose.
Oui. Tomber la culotte.
Tomber la culotte.
Voilà, c'était ça.
Voilà. Il y a beaucoup d'initiatives.
Alors, Tout ça, c'est très intéressant. On reviendra un peu au site Flash Info Fouf, parce que je trouve qu'il est intéressant de découvrir, donner envie aux gens qui nous écoutent d'aller voir ce site, parce qu'il est très bien fait.
Et très humoristique.
Il est très amusant. C'est vrai. Mais pour revenir à toutes les thématiques que tu viens d'évoquer, Alexia, je me dis, est-ce que vous n'êtes pas en doublon un peu avec le planning familial, quand même ?
Non. Ah. Non, ça va. Alors, le planning, on est complémentaires. Il faut arrêter de... Mais ça, je pense que c'est le système. Enfin, toutes les associations dépendent de financeurs. On va arrêter de... Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à se dire, si je fais ça, machin, l'autre, il va me prendre mes budgets. Bon, non. Avec le planning, on est complémentaires parce qu'elles ont des actions qu'on serait incapables de mener. Elles ont des structures d'accueil. Elles font des choses que nous, on serait incapables de faire. Surtout, enfin, on est une petite asso. Nous, on aborde des spécificités que elles, par contre, elles vont pas avoir le temps ou les moyens d'aborder. Donc, il faut pas nous voir déjà. On est complémentaires et je pense qu'au niveau associatif en général, il faut arrêter de se dire est-ce qu'on se prend le pain de l'autre ou autre. Non, c'est pas ça. On est complémentaires. On est complémentaires avec toutes les autres assos du centre LGBTI, avec le planning, avec AIDS, avec... Enfin, voilà. Et on ne peut pas être compétent sur tout, partout. Et heureusement qu'on a chaque association, chaque structure a des petites spécificités qui permettent d'avoir quelque chose de qualité.
Alors, en fin d'émission, on rappellera vos permanences au centre, justement, et éventuellement les contacts téléphoniques et les sites. On reviendra sur Flash Info Fouf aussi. Dur à dire, ça. T'as dit un peu fouf.
C'est fif pour les intimes.
Alors, Jaritaine, c'est avec toi qui va nous présenter, parce que c'est toi qui as fait la programmation musicale ce soir.
Oui, alors je ne sais pas laquelle il va mettre en premier.
Alors, on avait dit qu'on mettrait Les Nuits d'une demoiselle
de Colette Renard.
Voilà, alors je voudrais que tu nous parles des morceaux que tu as amenés.
Bah,
tu circonstancies chacun des morceaux, pour quelles raisons tu les as amenés, etc.
Les Nuits d'une demoiselle, c'est une chanson qui s'écoute.
Bernard, il a l'air de connaître parce qu'il hoche la tête dans son vocal là-bas. Ouais.
Et qui dit beaucoup de choses sur la sexualité féminine. Je crois que c'est une chanson qui résume assez bien une forme de féminisme. C'est-à-dire qu'elle prend du plaisir et puis le reste du temps, elle en prend encore.
Vous êtes en train de me dire que les femmes ont du plaisir sexuel, c'est
oui.
ça ?
Oui,
ah, tout à fait.
Elles ont une sexualité aussi.
On te fera une petite émission sur le clito, si tu veux, il n'y a pas de souci.
C'est un crime à papier, on te fait un dessin.
D'accord, ça marche, je suis preneur.
Ouais, et alors, tu te prendrais pour la reine Victoria qui niait la sexualité des filles ?
Oui, c'est vrai. Elle disait notamment que l'homosexualité féminine n'existait pas, parce qu'il n'y a pas de possibilité de pénétration. Donc, il n'y a pas de sexualité homosexuelle féminine, en tout cas, d'après la reine Victoria. Mais bon, elle est vieille, elle est morte.
Elle est morte, surtout, oui.
On va écouter Colette Renard, donc.
Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir, dans mon petit lit, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais savrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou,
mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Pluriel, 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 pluriel.
Yeah. Voilà, c'était Colette Renard. Nous sommes de retour avec Bernard à la régie et l'association Fris. Alors, on va revenir un peu sur Flash Info Fouf et sur l'actualité de Fris qui est toujours très riche. Mais je vais me tourner vers Jean-Yves. Parce qu'il a l'air de s'ennuyer, là, je vois, je sais pas ce qu'il fait.
Non, mais tripora,
tu sais quoi.
Il se maquille.
Il se remaquille. Non, mais il est très bien comme ça. Il a le rimmel qui tombe.
Fallait le dire. Hein,
Non, mais ça lui va très bien. Tu sais à quoi ça me fait penser, ce maquillage? Oui. Au prince arabe, dans le désert, qui se mettait du kohl sous les yeux. Pour, et ça faisait des, un regard très, très beau.
Il mettait peut-être pas une demi-heure.
Bon, ben, je vois que c'est pas
aucun
fait.
Aucun commentaire. Hein, le sexisme au sein des associations, je rigole.
Donc, du coup, toi, Jean-Yves, ça t'a semblé un peu par rapport à ton engagement naturel de te retrouver aussi chez Fris, parmi toutes les associations.
Oui, tout à fait, puisque c'est vrai que Fris insiste beaucoup sur la notion de transversalité, de, je dirais, d'addition, en fait, de certaines discriminations. Je veux dire, c'est quand même assez fréquent, pour ne pas dire quasi systématique, d'avoir des personnes qui se retrouvent non pas confrontées à une seule discrimination, mais à plusieurs. Et c'est vrai qu'hélas, il y a un peu ce problème dans le milieu associatif qui consiste à se spécialiser sur une seule, un seul type de discrimination et non pas sur les autres. Par exemple, très simplement, de dire voilà, quelqu'un qui est gay, c'est pas seulement d'être gay, ça peut être un problème de classe sociale, de revenus, de milieu, enfin, il peut y avoir beaucoup de choses. Et c'est vrai que Fris, justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure par rapport au planning familial, c'est une des grandes différences, justement, d'approche de Fris, justement, d'essayer en tout cas de considérer l'ensemble de ces discriminations dans ce qu'elles peuvent s'additionner, voire se décupler, en fait. C'est vrai que pour moi, ça a été quand même très intéressant, et toujours par rapport à ma démarche de militant, c'est vrai que l'intérêt de Fris, notamment par rapport à son travail du centre, consiste à pouvoir non seulement intervenir par rapport au public qui va se présenter au centre, des personnes en détresse, des personnes en questionnement par exemple, mais c'est vrai que nous sommes en train de travailler sur un développement de nos activités auprès des associations elles-mêmes, en fait, du centre, justement pour leur rappeler que c'est évidemment ce qu'elles font est très important, mais encore une fois, de ne pas forcément oublier, je dirais, un aspect un peu plus global des luttes, de manière à, justement, je ne voudrais pas perdre le Nord, en fait, de bien se rappeler pourquoi on est là et ce pourquoi on lutte, en fait.
Très bien, très clair. Flash Info Fouf, alors je vais revenir là-dessus, ça m'amuse parce que ça fait un bel exercice d'émission. Moi, je pensais à Fouf. Fouf, c'est un mot un peu populaire pour désigner le sexe de la femme.
Oui.
Voilà. Et je pensais que dans toutes les expressions, on avait finalement, même les expressions sont très macho, très... on va dire par exemple, alors, on a plein... C'est peut-être l'expression du style « on va se faire des couilles en or », par exemple. Bon, on ne va jamais se faire une fouf en or. Ouais. C'est vrai, j'en ai plein les couilles. J'en ai plein la fouf, ça ne fait pas le même effet. On est d'accord. Ouais. Hein, je m'en bats les couilles. Voilà. Alors, moi, il se trouve que je travaille beaucoup avec des jeunes filles des quartiers. Et souvent, elles reprennent à leur propre compte des expressions de garçons. Ouais. « Allez, homme, je m'en bats les couilles. Ouais. » Ou « j'en ai plein les couilles. » Enfin, les couilles, ça revient souvent. Et moi, souvent, je leur dis « mais t'en as pas, en fait. » Je veux dire, tu vois. Je me dis, oh, mais c'est une façon de parler. Oui. C'est une façon de parler. Je lui dis, tu pourrais pas dire, je sais pas, je m'en bats les ovaires, par exemple. Je dis comme ça, tu vois. Ah, mais non, mais c'est vulgaire.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça.
Mais on s'auto-censure aussi.
Ouais. Oui. Alors, il faut. Moi, je pense aussi, enfin, moi, c'est mon interprétation, c'est que ces filles ont besoin pour exister de prendre les codes des codes des garçons aussi.
Oui.
Voilà. Mais bon, avec la fouf, on pourrait avoir plein d'expressions.
On pourrait, n'importe lesquelles, on peut les changer. Oui.
Ouais, qu'est-ce qu'on leur a transmis à ces filles-là aussi? On leur a transmis le fait que l'idéal, c'était l'homme.
Oui. Enfin, comment exister dans certains milieux, c'est être... Enfin, c'est... Et dans certains cadres, c'est beaucoup plus prononcé.
Ouais.
Donc oui, pour se protéger, être un garçon manqué, on s'entend, et avoir ce type d'expression, c'est un moyen de protection et un moyen d'intégration aussi.
Alors, justement, avec Fouf, on pourrait faire plein de choses, mais les femmes hésitent encore souvent à employer des termes qui concernent leurs propres organes sexuels, en fait. Puisqu'il est plus facile. pour un homme de dire bon, je m'en bats les couilles, bon, c'est vulgaire, certes, on va pas le sortir à l'Assemblée nationale, par exemple, quoique. On en a entendu pas mal aussi en matière de machisme et de misogynie notamment. Mais bon, c'est vrai, j'ai une réflexion que je me suis fait en flash info fouf, donc ça marque son terrain quand même.
Oui.
Hein? Voilà. Alors moi, je disais qu'il fallait aller le voir, ce site, il fallait aller le consulter parce qu'il est très bien fait et il est très rigolo, effectivement. Voilà.
C'était l'objectif, oui, de le rendre... Voilà.
C'est un parti pris, évidemment.
C'est un parti pris. Enfin, c'est pas parce qu'on parle de consommation de produits ou d'infections sexuellement transmissibles qu'il faut... voilà.
On peut aussi,
on a une approche positive des choses. Enfin, c'est pas parce qu'on prend des produits psychoactifs que la vie est foutue. Enfin, il faut arrêter cette vision.
Ouais.
C'est pas parce qu'on chope la chlamydia ou une autre infection sexuellement transmissible que la vie est foutue. Il y a des moyens de s'en... voilà. Il y a des moyens, soit de réduire les risques qui peuvent y être associés, que ce soit pour tout, hein. ça, c'est pour tous les sujets. Et puis, il faut dédramatiser aussi un petit peu quand même.
Et puis, le sujet de base est plutôt plaisant.
Ben oui, c'est prendre du plaisir entre femmes.
Ben oui, le sujet de base est plutôt plaisant. Après, les potentiels, comment dirais-je ?
Conséquences.
Les potentiels dommages rencontrés, c'est différent. Mais en tout cas, le site est là pour parler de quelque chose qui est plutôt plaisant à la base.
Et du coup, on est en train de... Donc, on a eu une journée santé lesbienne lundi, avec plusieurs militantes lesbiennes, bi et autres. Et on va refaire encore deux autres journées sur 2017. Le but, c'est de rajouter des thématiques. Donc, ça peut être sur la mémoire des luttes, réexpliquer ce qu'était... l'origine du rainbow flag, le triangle rose, enfin toutes ces choses qu'on peut aussi avoir tendance à oublier. Et puis plusieurs, voilà. Donc il y a aussi cette dynamique. C'est pas un site qui est ancré et qui ne va pas bouger. Il est dynamique, il y a des projets d'amélioration.
Bien. Alors, on parlait tout à l'heure d'avortement. Je voudrais savoir votre opinion actuellement. Est-ce qu'on pensait, comme beaucoup de choses d'ailleurs en Occident, on pense que... que les choses sont acquises et puis on se rend compte que non, finalement, puisque en Espagne, en Pologne, et puis maintenant aux États-Unis, il y a des reculs, on dira.
Oui. Hein?
Parce que pour nous, c'est des reculs, hein, en tant que militants. Mmh. Et bon, voilà. Même pour si certains, c'est des avancées, malheureusement, parce qu'il y a encore beaucoup plus de personnes qu'on peut imaginer, ça j'en suis persuadé, qui sont opposées à l'avortement. À plus ou moins, à divers degrés, on dira. Oui. Il y a ceux qui ont une position morale, ou religieuse, position éthique, etc. Mais dans les discussions...
Et puis, il y a beaucoup de gens aussi, peut-être, qui s'en foutent un peu. Bah, si elles tombent enceintes, c'est un peu leur faute, quand même.
Ouais.
Enfin, je pense qu'il y a aussi une grande partie là-dessus. Bon. Elles n'ont qu'à faire attention.
Oui, voilà. On en revient un petit peu à des réflexes macho, enfin sexistes, quoi, on va dire plutôt.
Parce que ça peut concerner. C'est des femmes qui peuvent avoir ces discours aussi. Hein.
Oui, tout à fait.
À aucun moment.
Oui, tout à fait.
Oui,
bien sûr.
J'ai entendu une émission de radio où justement il y avait une femme qui intervenait.
On peut être très virulente.
Bien sûr. Ça me fait penser justement ce genre de discours peut-être à. J'ai entendu concernant l'épidémie, donc la pandémie de sida. À une époque, j'ai eu des personnes que je connaissais qui m'ont dit « de toute façon, c'est de leur faute s'ils ont le sida ».
J'ai entendu. On oublie la solidarité entre nous.
C'est de leur faute. On sait comment se protéger. Alors, voilà. Encore, bon, au début, ils ne savaient pas. Mais après, c'est de leur faute. De toute façon, voilà, il y a toujours un discours moral aussi derrière.
Oui. On oublie les inégalités d'accès aux soins, les inégalités d'accès à l'information, ne serait-ce qu'aux moyens, les pressions qu'il peut y avoir au niveau familial, en fonction... toutes les jeunes filles de 14 ans n'ont pas eu accès à l'information de savoir que le planning familial existe et qu'on peut y avoir un moyen de contraception. Elles n'ont pas toutes accès à un des parents ou une grande sœur ou un grand frère qui puisse les informer et leur dire « si t'as besoin de prendre la pilule, je peux peut-être t'accompagner au gynéco » ou peu importe. Voilà, il faut prendre ça en compte, c'est-à-dire que on n'a pas tous accès aux mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous le même contexte. Et que oui, peut-être qu'il y a plein de moyens de contraception qui existent, oui, il y a peut-être des endroits où on peut les trouver, mais toutes n'ont pas l'information, ne serait-ce que, ou les moyens d'y accéder. Quand on habite dans une région où il y a le planning le plus proche, il y a 50, 100 km, comment peut-on reprocher à une jeune fille ensuite d'être enceinte et lui dire que c'était sa faute si elle est tombée enceinte ? Surtout que lors du rapport sexuel, elle n'était pas toute seule.
En plus, je dirais qu'on a tous le droit d'avoir un avis peu importe ce qu'il est. En revanche, on n'a pas le droit de priver les autres de leur liberté. Je crois que vraiment, ça, c'est un truc qui me tient à cœur. C'est... Moi, ça ne me dérange pas d'avoir en face de moi quelqu'un qui me dit bon, « le mariage gay, pas terrible, l'avortement, pas terrible », du moment qu'il laisse les autres avoir leur liberté. C'est la liberté de choix, ça se discute pas pour moi. Et du coup, l'IVG, ça se discute pas. Quoi. Enfin, le droit à l'IVG, ça se discute pas. On n'oblige pas les gens à avorter. Ça serait en plus, j'imagine. Mais voilà, ils ont le droit à une liberté de choix.
Mais
elles ont le droit.
Mais la liberté de choix, justement, on a l'impression qu'elle est actuellement en recul. On a l'impression dans certains pays, ceux que j'ai cités notamment, et je pourrais en citer d'autres aussi, même la France d'ailleurs, à certains points, on a l'impression que finalement c'est un droit exagéré. On a l'impression d'après Trump, par exemple, on pense aux exemples de Trump parce que c'est le plus emblématique.
Mais on peut rester dans le contexte français. Hein. Le mariage pour tous, il n'est pas pour tous.
Oui, 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 d'accord. Mais
enfin, on a l'impression qu'on a la liberté, qu'on a des choses acquises. En fait, si on creuse un peu, c'est pas tant acquis que ça.
Mais je veux dire par rapport à l'avortement pour revenir à l'IVG. Pardon. Donc, mais c'était une bonne remarque aussi.
C'est tout le danger de la démocratie. C'est tous les dangers de la démocratie. C'est qu'à un moment ou à un autre, il peut se passer des choses qui ne nous plaisent pas.
Ouais.
À ce moment-là, nous, de mobiliser nos forces pour tenter de préserver le droit, si on y arrive, sinon de le regagner. Mais c'est tout le danger, c'est tout le risque de la démocratie. Sinon, c'est un État totalitaire. Si on dit non, ça, c'est comme ça et on n'y touche plus, c'est du totalitarisme. La démocratie, il y en a qui votent qui votent comme ils en ont envie. Nous, ça ne nous convient pas. Bah, on le fait savoir et on se débrouille pour que le plus vite possible, ça redevienne...
Il y a aussi le côté liberté d'expression aussi dans ce cas-là. Il faut qu'on laisse aux personnes exprimer des avis divergents. Voilà. Et c'est vrai que par rapport donc le mariage pour tous en est un exemple. En France, on avait l'impression depuis les années 80 qu'il y avait un mouvement d'émancipation, par exemple, pour revenir plus spécifiquement à l'homosexualité, tout simplement, un mouvement d'émancipation qui faisait que la société était plus ouverte, plus tolérante, même si c'est un mot qui n'est pas très adapté à mon goût, mais bon. Et on se rend compte qu'au moment d'une discussion pour le mariage pour tous, il y a une frange énorme quand même de la société, je ne dirais pas majoritaire, mais quand même importante, qui s'est levée et qui a dit, voilà, et puis en disant de dire, ouais, pendant des années, on nous a interdit de parler, mais maintenant on va s'exprimer, c'est plus possible. Et sur l'IVG, c'est un petit peu ça, on a l'impression que ça se passe la même chose aux États-Unis ou en Pologne.
On se rend compte, si on observe bien, parce que le problème, c'est qu'on a une mémoire très immédiate. Si on observe bien les 30 dernières années, on se rend compte que moi, j'ai grandi dans les années 80-90, il y avait des Noirs qui chantaient, il y avait des Noirs qui dansaient, il y avait des femmes qui chantaient, des femmes qui dansaient, ça dérangeait personne. Et il y avait des homosexuels dans des séries, et on se posait pas tant de questions. Et dans les années 2000, il y a eu quelque chose, je sais pas quoi, qui fait que il y a des tensions qui sont cristallisées et on reproche aux femmes d'avoir pris un peu les devants, on reproche aux homosexuels d'avoir quelques droits, comme si finalement en temps de crise. Voir la paille dans l'œil de son voisin, ça évitait de voir la poutre qu'on a dans le sien, quoi. C'est mais regarde. Et puis pendant ce temps-là, on s'occupe pas de comment nous.
Mais beaucoup, enfin, c'est vrai que beaucoup de gens notent aussi une sorte de. Qu'est-ce qu'elle dit, Alexia?
Je dis, c'est dans la Bible, ça, mon cher.
Oui, oui, oui.
J'étais très surprise. Pardon, pour la partie.
Et en fait, c'est vrai, d'un certain côté, on peut constater une sorte de retour à un certain conservatisme, on dira. Conservatif, enfin, Jean-Yves, il doute. Voilà. T'as fait une moue, j'ai vu, t'as fait la moue.
Donc... Ah, puis ça se voit bien quand il l'a fait.
Ouais. Il fait très bien la moue, d'ailleurs.
C'est Jean-Yves a raison, dans le sens où je pense que c'est aussi la manière dont on regarde les décennies passées. Je ne suis pas certain qu'on puisse parler d'un retour. Peut-être qu'effectivement, il devient plus virulent, peut-être qu'il s'exprime davantage. Mais est-ce que c'est vraiment un retour? Je pense qu'il faut aussi bien voir que, effectivement, comme tu le proposais, dans les années 80, par exemple, il y avait une certaine tolérance par rapport à ce qu'on considérait encore comme des divergences. C'était toléré, mais ça n'a jamais été accepté. Qu'effectivement, à partir des années 2000, pour un certain nombre de raisons, effectivement, certaines personnes ont vraiment commencé à se sentir menacées, d'où une certaine violence? Faudrait considérer le...
Alors, ça serait peut-être, pour rejoindre ce que disait Jariten, le moment où... Le militantisme LGBTI a demandé des droits plus avancé que celui d'être simplement le mec à la mode ou la nana sympa qui va bisouiller sa copine qu'on voit au cinéma et c'est super, c'est génial, j'ai des copains homo. Puis d'un seul coup, tac, parce que finalement on prend par exemple une bonne femme comme, comment elle s'appelle, la folle, tordue.
Ludovine de la Rousse.
Non, pas elle. L'autre, celle d'avant.
Frigide Barjot.
Frigide Barjot. Ouais. Elle était très copine avec des gays dans les années 80. Oui. Elle était au Banana Café régulièrement. Mais elle a fait des faux mariages amusants dans la fête. Puis soudain, c'est devenu...
Entre-temps, elle a découvert la religion. Et les pires, c'est ceux qui découvrent la religion sur le tas. Mmh. Ils se lancent dedans et ils deviennent des vecteurs de messages religieux à un point qu'on n'imagine pas.
Mais est-ce qu'elle n'est pas justement un peu le symbole de ce que j'essaye d'expliquer ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a l'homosexualité sympa, rigolote, les drag queens, c'est marrant, on s'amuse, on fait la fête, il y a les paillettes, puis d'un seul coup...
Ah, mon fils homo ? Non.
Voilà, par exemple. Ou d'un seul coup, ces gens-là veulent des droits, les mêmes que la personne lambda. Et Frigide Bardot, Barjot, hein.
Oui, voilà.
On est dans les mêmes eaux.
On est à peu près dans les mêmes eaux, effectivement. Voilà, mais on a l'impression d'un seul coup, elle a représenté un peu cette tendance sociétale qui a fait que d'un seul coup, ah, mais ils veulent des droits, quoi, ils veulent se marier. Mais c'est pas possible, ils veulent avoir des enfants, ils veulent élever des enfants, mon Dieu.
C'est ça, tant que les noirs font danser, tant que les femmes continuent à faire manger, et tant que les homos donnent des conseils en vêtements, bah, y a pas de problème. Puis le jour où les femmes commencent à vouloir avoir un emploi sérieux et payé comme un homme, les homos veulent le mariage les noirs veulent la même chose que les blancs, vous nous amusiez jusque-là, mais là, ça nous fait plus rire.
Mais moi, je sais pas, Bernard, toi qui es aussi jeune que moi, on va dire, je vais pas critiquer.
On est tous jeunes.
Voilà, on est tous jeunes, on est tous nés il y a très peu de temps. Mais tu as connu les années 80, moi j'étais très jeune, toi aussi, donc Bernard. Et c'était jouissif les années 80. Moi, c'était vraiment l'époque de mon adolescence. Et d'un seul coup, on voyait à la télé, il y avait plein d'émissions qui parlaient de l'homosexualité. D'un seul coup, c'était devenu tendance, l'homosexualité.
Non, mais je crois que c'est pour ça. Il vient de là le problème. C'est-à-dire.
Il y avait, tu vois, tous ces gens-là.
C'est
on était en extase, nous, devant ça.
Quand quelque chose devient tendance, quand quelque chose devient à la mode, et ben, à un moment ou à un autre, ben, c'est plus la mode. Et je crois que c'est un peu le coup qu'on est en train de se prendre. C'est-à-dire, pendant un temps, c'était hype d'avoir un ami gay, c'était hype de voir des gays à la télé, tout ça. Aujourd'hui, ils nous font chier, tous ces gays.
Il y en a trop.
Les lesbiennes, bon, n'en parlons même pas, parce que, à part 2-3 séries rares, je pense à Hellworld, Orange is the New Black et... dans une série un peu moins lesbienne, Buffy contre les vampires.
Il y avait le couple.
Je suis désolé, mais il y a quand même le couple.
Oui, lesbien, le couple.
Les lesbiennes, à part ça, elles n'existent pas.
Si elle ne connaît pas, parce qu'elle est trop jeune.
C'est vrai, tu ne connais pas.
Et la culture et la culture.
L'ambiance sur autre chose.
Mais ouais, non, les lesbiennes, n'en parlons même pas. Alors, les lesbiennes, c'est.
Ouais.
Les quoi?
Exactement.
Bon, alors, tant qu'il s'est agi de parler de dépénalisation, de l'homosexualité, etc., ça, encore ça l'est. Mais c'est vraiment quand on est passé dans le domaine de la famille, des mêmes droits, d'avoir les mêmes droits que tout le monde, quoi. C'est là vraiment qu'il y a eu une cassure, je trouve, importante.
Je crois que, je sais pas si ça l'est, moi j'y étais pas. En revanche, j'ai aucune peine à m'imaginer que dans les années 80, donc en 81, hein, quand Badinter a prononcé la dépénalisation de l'homosexualité, j'ai aucun mal à imaginer que les gens n'avaient pas les moyens de communication de l'époque, d'aujourd'hui, pardon, que du coup ils n'avaient pas les moyens de se rassembler comme aujourd'hui, que du coup, bah oui, il y en avait peut-être plein que ça faisait bien chier, mais que ma foi, l'info leur était pas arrivée en temps et en heure, parce que tout le monde n'avait pas une télé en plus à l'époque. Hein, on parle d'un moment où le téléphone, on s'en servait pour les anniversaires ou pour les urgences, vu le prix que ça coûtait. Donc,
on a l'impression qu'on remonte à la préhistoire quand on entend parler
de ça. Moi, dans les années 80, je suis né dans les années 80, on avait encore les téléphones où il fallait faire tout le tour du cadran et que ça revienne en arrière pour faire les numéros.
Oh, donc, c'est pas vrai.
Si, téléphone gris.
Mais j'étais pas à la page chez toi, c'est pour ça.
Non, mais moi, j'avais les mêmes, hein, c'est vrai. Que les regarder, hein, c'est vrai. Plus devant pour communiquer, c'était
ok. Ah, ben, pour communiquer, crois-moi que pour appeler les. Je sais plus combien de milliers ils étaient, là, pour manifester, bah, du coup, ça prend un peu plus de temps.
Ouais, mais ils avait se mobiliser parce que quand il y a eu l'histoire de la réforme de l'éducation nationale, c'est des millions qui sont tombés dans la rue.
Ah oui, mais c'est pas les mêmes personnes.
Si.
C'était les mêmes personnes qui sont descendues dans la rue, les mêmes tendances qui sont descendues dans la rue contre le mariage pour tous. c'est catholique, essentiel, beaucoup de catholiques, alors, puisque c'était l'enseignement catholique qui était principalement visé, les gens de droite en général, etc. Et il y a vraiment eu des mobilisations aussi importantes que
alors, quand je dis c'est pas les mêmes personnes, ouais. C'est pas les mêmes personnes
au niveau générationnel.
Dans le contexte.
Il y en a peut-être qui sont morts depuis. Mais...
Le contexte d'aujourd'hui n'est pas le même, et on est pas, moi-même, je suis pas la même personne, et toi-même, t'es pas la même personne qu'à ce moment-là. C'est pas les mêmes personnes en ce sens-là.
Ouais. Mais sinon, la capacité de mobilisation des gens avant Internet et les réseaux sociaux existait. Ça, il faut pas le.
Je pense qu'ils avaient d'autres chats à fouetter que la dépénalisation de l'homosexualité.
Mais oui. Je leur souhaite. Ça passait un petit peu mieux, tu vois, je pense, hein, que le mariage pour tous.
Et puis, dans les années 80, on était moins soumis à cette incertitude de financière. Enfin, en tout cas, il y avait le chômage qui commençait à monter, qui commençait peut-être à inquiéter, mais on était encore dans une espèce... Les années 90, ça a un peu duré dans une espèce de naïveté, d'insouciance bienveillante, comme ça, où... Donc, comme il n'y a pas cet effet crise qui fait qu'on s'inquiète du moindre truc, du musulman à côté, de l'homo, de l'autre, machin... Bah, du coup, ça devait passer un petit peu mieux, j'imagine. Je sais pas, j'avais... Je venais de naître.
Voilà, puis après, même pour les gens de droite, le fait de dépénaliser l'homosexualité... Enfin, les catholiques, par exemple, ont un côté compassionnel vis-à-vis des homosexuels que le pape a encore. C'est pas de leur faute, les pauvres. Il faut les accueillir, ils sont... C'est comme les handicapés, hein, quelque part. C'est des gens comme les autres, finalement. Ils ont un handicap.
Non, mais c'est ça.
Voilà, c'est ça. Voilà. Ah ouais. Voilà. Mais alors, dès qu'on...
C'est comme les femmes, finalement.
Voilà. Oui, dès qu'on s'est mis à toucher le sacro-saint Graal des droits civiques, notamment de l'extension du mariage, et alors là, ça a été fini. Voilà. Bon, ben en tout cas, on va changer un peu de sujet. On a abordé pas mal de choses. Mais moi, je voudrais bien parler... des événements liés à l'association Frise. Parce qu'il y en a plein, on en a déjà parlé souvent, on a parlé de fil de vie, fil de mémoire. Ça, c'est un super projet. Il faudrait savoir où il en est, ce projet.
Ben, du coup, il y a eu
Enfin, c'est plus qu'un projet, hein. C'est quelque chose qui existe.
Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on s'est vu, mais du coup, suite à la journée de partage avec des intervenantes qui étaient dans les premières soignantes des personnes atteintes du VIH-SIDA, une exposition a été faite. Donc, en fait, les personnes qui ont participé à la journée ont été invitées à faire un peu des œuvres, des créations, pour matérialiser ce qu'elles avaient ressenti face à ça, pour faire passer des messages. On est vachement là-dedans, Fris, je me rends compte. On fait passer plein de messages, plein de supports. Bon, bref. Et du coup, il y a eu l'exposition au centre LGBTI pendant presque un mois. On a un peu sensibilisé à la même thématique, en fait, les étudiants de l'école S-Mode. On leur a parlé, justement, des premières soignantes et soignants qui ont accompagné les personnes séropo. On a refait un petit rappel sur l'importance du préservatif, tout ça, bon, voilà, globalement. Du coup, ils nous ont créé des masques et des gants, symboles des soignants et soignantes. Ils ont créé aussi des robes totems, qui seront donc exposées à partir du 8 février au centre LGBTI.
Alors, voilà. S-Mode, il faut rappeler, c'est une école de mode.
Oui, hein, à Lyon.
À Lyon, voilà.
Et qui est international.
Et qui est international, bon, qui est présente dans d'autres villes de France. Mais à Lyon, ils ont en plus des ateliers, enfin des formations spécifiques à Lyon, comme ils ont des formations spécifiques à Paris, ou ce qu'ils sont à Paris aussi, S-Mode. Oui. Hein. Oui. Mais ils ont chaque ville sa spécificité au niveau de la formation. Mm-hmm. S-Mode, c'est donc une école qui se trouve à la Croix-Rousse, je crois, sur les pentes.
En bas des pentes.
En bas des pentes de la Croix-Rousse, qui est une école prestigieuse et avec laquelle donc, vous avez, donc, depuis longtemps, vous travaillez
en partenariat.
Mm-hmm. Voilà. Alors, fil de vie et fil de mémoire, moi, ce que j'aime beaucoup, à titre personnel, dans ce que ça représente dans les expositions, ça me fait encore une fois, mais moi, c'est encore la vieille qui va parler, ça me fait penser aux années 80, au patchwork des noms, à ce militantisme-là. Oui. C'est comme un art de dire, mais non, ce militantisme, il existe toujours, le sida, il existe toujours, il y a encore des thématiques à aborder. Et quand on va à cette association, ben, on a une petite larme à l'œil, on se dit, ah, ça rappelle les années 80, San Francisco, la lutte. Ouais. Bon, voilà, ça c'est ma petite minute nostalgique, mais moi, c'est comme ça que je le ressens.
C'est l'idée.
C'est bien. C'est bien.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Il y a une volonté de mémoire en ce moment. Alors, je vois que sur Lyon, hein, mais le collectif lesbien qui fait sur les archives et les mémoires des luttes. Enfin, il y a plein de dynamiques. Et sur Montpellier aussi, on a une intervenante qui nous en a... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté en ce moment de garder trace des luttes et de s'en rappeler. Et pour celles et ceux qui ne les ont pas connues, les découvrir.
N'a-t-on pas été dans une période de veille quelque part ?
De veille.
Enfin, de sommeil.
Ah oui. Oui, parce que par rapport au sida, par exemple, moi je trouve que la thématique du sida, la lutte contre le VIH, contre l'épidémie, est en berne en ce moment. On a l'impression que ce n'est plus un problème, quoi.
J'ai le droit d'être politiquement correct ?
Non, mais.
Oui, lâche-toi.
Oui, tu peux. Hein.
En fait, il y a beaucoup d'associations qui s'en sont inquiétées pendant longtemps et qui aujourd'hui sont là où se trouvent les subventions, c'est-à-dire sur la PrEP, sur le TROD. Sur ces choses-là. Donc elles le font très
la
bien.
La prévention, hein, mais le suivi, oui, bien sûr.
Bah, mais les associations sont là où sont les subventions. Et est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir ? Je pense pas. Mais du coup, ça veut dire qu'elles délaissent un terrain qui est celui de la prévention, puis de la mémoire aussi. Mmh. Alors de la prévention à plus grande échelle, parce que du coup, la PrEP, elles l'ont adoptée, mais elles l'ont adoptée au mépris des autres formes de réduction des risques, parfois. Ou sans être au mépris, en oubliant que les autres existaient.
Et en oubliant les autres infections sexuelles.
Et en oubliant les autres infections sexuellement transmissibles.
Dont on sait qu'elles sont en recrudescence, d'ailleurs, notamment dans la population HSH.
Oui. Mmh. Des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, je le dis pour les auditeurs, parce que HSH, ils savent peut-être... Et auditrices, d'ailleurs. Mmh. Hein, bon. Ouais. Voilà. Mais oui, je pense que les associations sont là où sont les subventions et du coup...
Et puis, on fait aussi plus de bruit pour les nouvelles choses. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont restées en place sur la prévention de base, on n'en entend plus parler, mais qui existent quand même toujours.
En tout cas, fil de vie, fil de mémoire, si vous avez l'occasion donc, de voir l'expo... Alors, c'est une exposition... Bon, vous avez exposé au centre LGBTI. Mmh. Vous exposez aussi dans d'autres lieux.
Pas prévu pour l'instant. Non.
Mais l'expo, elle existe, quoi. Mais si quelqu'un vous la demande, vous pouvez la déployer.
Oui, tout à fait.
C'est un cabinet de curiosité. Oui. Donc, il y a plein d'objets.
C'est génial, ouais, cette idée.
Et des trois saisons. Hein. Il nous reste des trois saisons. Ouais. Alors, j'avoue, certains objets volumineux n'ont pas été conservés. D'accord. Mais la plupart, c'est bon.
Et pour le partenariat avec USMOD, du coup, je peux peut-être placer la date.
Vas-y.
Donc c'est le mercredi 8 février à 19h, on a le vernissage de l'expo, de cette expo dont Alexia vient de me parler.
Au centre LGBTI, ça peut être l'occasion de découvrir LGBTI. Pour ceux qui ne connaissent pas.
D'accord. Alors, justement, cette exposition, je sais que vous avez déjà fait aussi quelque chose qui est en rapport avec les travailleurs, justement, des centres de santé, hein, les soignants notamment. Expliquez-moi un petit peu.
C'est cette expo.
Ça fait partie de fil de vie, fil de mémoire, voilà.
Alors oui,
parce que moi, fil de vie,
c'est la première expo qu'on a faite là, le cabinet de curiosité. Donc...
Voilà, parce que le cabinet de curiosité, justement, ça évoque pour moi un peu le patchwork, un peu des créations artistiques, etc. Mais la thématique même des soignants, des soignantes, c'est-à-dire des personnes qui ont été confrontées au départ, par exemple, aux premiers malades.
Oui, bah alors c'est exactement cette exposition-là.
Oui, oui.
On avait dû se voir quand il y avait avant la journée de travail ou après. De présentation, comment ces soignantes et ces soignantes ont bricolé pour pouvoir améliorer la vie des personnes.
D'accord.
Voilà.
Alors, donc, recite-nous l'événement. C'est la semaine prochaine.
Donc, c'est mercredi 8 février, donc la semaine prochaine,
au
à 19h,
LGBTI.
Au centre LGBTI de Lyon. Tout le monde est bienvenu. Peu importe qui c'est.
D'accord.
Comme ça, on ne peut pas faire plus inclusif.
Écoute. Pourquoi ? Parce que c'est un message, non ? On vous a accusé de...
Non, j'y tiens.
Au centre LGBTI que c'est que pour les gays, les
amis.
C'est pas parce que c'est sur les soignantes ou les personnes séropositives que c'est que pour eux.
Voilà, exactement.
Ou que pour elles.
Voilà.
C'est exactement ce que je voulais signifier.
On peut ne rien y connaître et débarquer. Voilà. C'est aussi l'occasion de découvrir.
Très bien. Donc, je rappellerai les dates sur tous les sites réseaux sociaux que j'utilise, traditionnels, Facebook, Twitter, et puis le site de l'émission. J'avais encore des choses à dire, mais ça m'a échappé complètement. Mais ça, c'est la vieillerie. Au bout d'un moment, je suis fatigué, j'oublie tout. Non, mais on a fait peut-être pas le tour, mais on a vu l'essentiel de l'activité de l'association.
Nous, on a des dates. Hein.
Vous avez des dates. Alors, il faut balancer.
Alors, du coup, il y a le collectif lesbien lyonnais qui organise le 9 février une soirée de rencontre en soutien aux réfugiés LGBTI. Donc, ça se passe aussi au centre LGBTI. Nous, on est très contentes et contents que le collectif prenne ça et pousse ça. Et c'est une occasion aussi de voir un petit peu plus large que nos petits trucs, nous, lesbiennes, gays. Voilà. c'est aussi une ouverture.
Alors nous, c'est un thème qu'on a déjà abordé ici. On a invité la CIMAD notamment pour nous en parler.
Parfait.
Et c'était extrêmement enrichissant et intéressant. Alors, ça aussi, bon, c'est une date à noter, évidemment. Rappelle-nous la date, Alexia.
C'est jeudi 9 février au Centre LGBT.
D'accord.
C'est le lendemain du vernissage.
Ouais, le lendemain du vernissage. Mmh. Mais il y a aussi un autre événement dont Jean-Yves va nous parler.
Ah oui.
Tu fais partie du forum Gaël-Lesbien, il me semble.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et je crois qu'il y a un événement samedi.
Ce sera, la mémoire va me jouer des tours, ça doit être le 11 et ça va être effectivement les 20 ans du forum.
Voilà, ils fêtent leurs 20 ans.
Voilà, donc en fait ça va être une grosse journée puisque c'est pas seulement les 20 ans, il va y avoir à partir de 16h, c'est l'AG donc, qui est ouvert à toutes et à tous. Hein. Donc l'AG du forum qui va présenter tous les rapports moral, rapports financiers. Il y aura également l'élection des nouveaux représentants et il y aura donc le soir, je crois que ça doit être à partir de 20h. Mais là, par contre, c'est la soirée justement pour célébrer les 20 ans du forum. Hein, par contre, je ne sais pas encore, il y a encore certains pour parler en ce qui concerne les activités, de voir un petit peu comment on peut célébrer ça. Bon, a priori, ça ne va pas non plus être en grande pompe, hein, ça va rester quand même plus dans l'esprit de convivialité du forum. L'idée, c'est plus de marquer le coup, en fait, de rappeler que ça fait 20 ans, on est encore là, on y reste. Voilà. Avec toujours, hélas, ce petit regret de dire, si on est là, c'est à la fois bien, ça veut dire que le travail est effectué. Bon, par contre, de dire, ça aurait été bien de pouvoir passer à autre chose. Si les luttes étaient devenues inutiles, on serait plus là. Et là, si on est là, c'est qu'il faut encore faire des choses, il faut continuer à se retrousser les manches, à travailler. Hein.
Bien entendu, le travail n'est pas terminé.
Hélas.
Alors... Oui.
Deux petits trucs à annoncer. Un truc qui tient vraiment à cœur, c'est le jeudi 2 mars de 17 à 20h, toujours au centre LGBTI. Il y aura ce qui s'appelle le March Slow. pour voir ce que, pour continuer autour des personnes en situation de handicap et de la marche des fiertés et du centre LGBTI.
D'accord.
Donc le jeudi 2 mars de 17 à 20h et bien sûr, parce que la dernière fois on n'avait pas eu le temps de le dire, le premier et le troisième mercredi de chaque mois. De 16h à 19h, Christian Permanence, généraliste au centre.
LGBTI, 19 rue des Capucins, Lyon 1er.
Exactement.
Absolument. Il fallait le rappeler, effectivement, j'avais bien l'intention de le faire. Flash info fouf, on tape flash info fouf, et tac.
Et c'est bon.
Et c'est bon. D'ailleurs, j'ai fait des recherches un petit peu, il y a quelques mois de ça, j'avais tapé Association Frise, on tombe aussi, c'est référencé flash info fouf. C'est bien. Bravo. Bravo pour votre action. Et merci d'être revenu nous voir. Nous allons conclure notre émission. Alors, à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire, un message à passer, même personnel, une déclaration d'amour à faire sur les ondes. Non, personne. Si, Bernard, moi j'en ai une pour toi. Je t'aime, Bernard.
Alors, j'en ai une, c'est pour la raclette. Je t'aime, mais on se reverra l'année prochaine parce que là, j'en peux plus.
D'accord. Alors, ça, c'est un message hyper perso, quoi. C'est un private
on
joke.
Ouais.
Bon, très bien. Alors, comme tu as prévu la musique, on va mettre deux morceaux maintenant, enchaînés, avant de se séparer. Et donc, tu vas être obligé de nous en parler, puisque c'est toi qui as choisi. Voilà.
Alors, c'est moi qui les ai amenés, mais tu vas pouvoir, peut-être, Alexia, nous parler de Ode to
Clitoris. Our musical
Ode. L'Ode au Clitoris.
Voilà.
Donc, là, vous n'aurez pas l'image, mais ça peut être cool de regarder sur YouTube, parce que le clip est assez génialissime.
Ouais.
Eh bien oui, le clitoris, organe féminin, qui a été très longtemps
ignoré.
Délaissé. Ignoré peut-être.
Par les femmes elles-mêmes, peut-être.
Donc c'est très intéressant parce que voilà, donc il y a des chercheuses qui ont fait des... Tapez clitoris 3D sur Internet et puis vous verrez,
d'accord.
C'est intéressant.
D'accord, ok. Et il y a donc une troisième chanson, donc les gens se brossent les dents.
Oui, de Guédré, que j'aime beaucoup, et je crois que Boris, d'ailleurs, l'aime beaucoup.
On avait passé déjà...
Les gens se brossent les dents, alors on n'avait pas eu le temps de la passer, celle-ci.
Ouais.
C'est une chanson que j'avais choisie à ce moment-là, puisqu'on était le lendemain ou pas très loin derrière l'élection de Trump.
Ouais.
Et cette chanson, elle a tendance à nous rappeler que tout le monde se brosse les dents, tout le monde a été un enfant, y compris les pires personnes sur Terre. Ouais. C'est, j'aime beaucoup.
Très bien. En tout cas, merci d'être venu. Association Frise, Alexia, Jean-Yves, Jarrytel.
Merci à toi de nous.
Merci,
Bernard d'avoir encore une fois affronté toutes les vicissitudes que représente la traversée de Lyon jusqu'à Saint-Priest. Et nous retrouverons, pas la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, on va avoir une émission spéciale enregistrée sur Stéphane Corbin et son, je ne sais pas si vous connaissez Stéphane Corbin, et son donc projet, ben, c'est plus qu'un projet, qui lui est devenu un double CD, s'appelle Les Funambules, qui est un projet de lutte contre l'homophobie. Voilà. Et on fera une thématique spéciale la semaine prochaine, le 8 février. Merci d'avoir été à l'écoute, merci beaucoup d'être venu nous voir, c'est un plaisir. Vous reviendrez, j'espère. Et on va écouter donc les deux morceaux.
Et au cinéma, aller voir Moving.
Ah oui, alors Moving, c'est quoi ça, c'est... Dis-nous ce que c'est vite fait. Trop tard, hein, t'as parlé, c'est trop tard. On n'aura pas le temps d'écouter son son.
C'est sur un garçon gay, noir.
Ah oui, alors j'ai vu des critiques mitigées là-dessus, effectivement. Hein, bon, il faut voir, il faut juger sur pièce, effectivement. Bon, allez, musique.
Michel fournirait faisait des bisous. Comme toi, elle était plus grande debout. Comme toi, parfois elle marchait sur des cailloux. La meuf à Marc Dutroux. Ceausescu aussi se brossait les dents. Et tous les officiers nazis
L'émission gay de Radio Pluriel